Voici les textes liturgiques pour ce 16e dimanche après la Pentecôte, épître tiré de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, car elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute famille tire dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par sa puissance qui opère en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans la succession de tous les âges et tous les siècles, ainsi soit-il. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas. Et ceux-ci l'observaient. Il y avait là devant lui un homme hydropique. Et Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Mais ils gardèrent le silence. Alors lui prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il dit, qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour même du sabbat? Et il ne pouvait rien répondre à cela. Il dit aussi aux invités cette parabole, remarquant qu'ils choisissaient les meilleures places. Quand vous serez invités à des noces, leur dit-il, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les invités une personne plus considérable que vous, et que celui qui vous aura invité, vous et lui, ne vienne vous dire céder la place à celui-ci, et qu'alors on ait la honte d'être mis à la dernière place. Mais lorsque vous serez invités, allez vous mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui vous a invité vous dise, mon ami, montez plus haut. Et alors, ce sera un honneur pour vous, aux yeux des convives, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera exalté. Veuillez vous asseoir. Alors, quelques annonces d'abord. N'oubliez pas que cette semaine, il y aura les quatre temps. Donc, mercredi, vendredi et samedi. Donc, d'après les lois, c'est discuter entre les prêtres quelles sont les obligations des quatre temps. Un peu de prêtres qui sont d'accord. Mais je pense que d'après les lois, de Pie XII, quatre temps, en principe, c'est jeûne et abstinence. Jeûne, un repas par jour pour midi au soir, comme vous voulez. Abstinence, pas de viande. Il est évident que ceux qui font des gros travaux physiques peuvent considérer dispenser, c'est ce qui se passait avant, du jeûne au moins pour pouvoir remplir leur devoir d'État. Je recommande aussi à vos prières là, d'un bon ami prêtre qui est décédé, l'abbé Bourmeau, Dominique Bourmeau, qui était très peu connu en France parce qu'il a fait pratiquement tout son apostolat en Amérique du Sud, en Australie et en Amérique du Nord. Était prieur à Kansas City et qui est mort. Donc, priez pour lui. C'était un grand ami de séminaire qui avait été ordonné, je crois, 2 ans après moi, 1981. Attention aussi pour si vous venez à la messe en semaine, cette semaine, donc j'ai une retraite. Priez bien pour cette retraite qui commence lundi. Donc, ce sont les horaires des retraites et toutes les messes de semaine auront lieu au gîte où je prêche les retraites. Donc, messe à 7h30 tous les matins. Mardi, mercredi, vendredi et samedi, et jeudi, c'est l'enfant prodigue, donc messe chantée à 7h. J'ai encore une place pour la retraite du mois d'octobre, la dernière retraite de l'année, du 18 au 23 octobre. Donc, s'il y a ceux qui m'écoutent sur Internet, des gens qui sont intéressés, veuillez me prévenir rapidement. Aussi, on m'a fait une remarque intéressante, une personne que je ne connais pas d'ailleurs directement m'a j'ai remarqué que j'avais dit une chose fausse dans une conférence il y a des années et des années. Donc, il faut comprendre que toutes les conférences qui sont sur Internet, c'est le style parlé. Donc, je donne des conférences. Donc, il faut savoir remettre les passages dans l'esprit de la conférence que je donne. Mais il y a parfois des choses, effectivement, j'ai dit une chose qui était incomplète. C'était dans la conférence sur l'explication de l'encyclique du pape Pie XII, Humani Generis, contre les erreurs modernes. J'ai dit que, au début de la conférence, dixième minute, que l'encyclique de Pie XII était caduque. C'est évident que je parlais caduque pour les modernistes, pas pour nous. C'est évident, je voudrais que les choses soient claires, que quand un texte, surtout ex cathedra infaillible d'un pape, il n'est jamais caduque, parce que par définition, un texte infaillible est éternel, comme le bon Dieu lui-même. Il ne peut jamais être changé. Aucune autorité au monde, au ciel et sur la terre, a autorité pour changer un texte infaillible, que les choses soient claires. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais aujourd'hui vous parler de trois belles fêtes qui sont unies ensemble liturgiquement parlant. La fête du Saint-Nom de Marie aujourd'hui, le 14, donc dans 2 jours, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, et le 15, la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il y a un lien, et tout est lié par la Très Sainte Vierge Marie. Donc à la fête du Saint-Nom de Marie, qu'on commémore aujourd'hui, sont associés les mystères joyeux du rosaire. Et également, dans la vie spirituelle, la vie purgative. À la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs sont associés évidemment les mystères douloureux du chapelet, du rosaire, et la vie illuminative. Enfin, à la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, seront associés, bien sûr, les mystères glorieux et la vie unitive. Je vais vous expliquer comment ces trois fêtes, justement, sont unies par la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie, elle vient rattraper le péché. Vous voyez pas qu'elle est, elle n'est pas Dieu, bien sûr que non, mais elle est co-rédemptrice du genre humain. Étant co-rédemptrice du genre humain et médiatrice de toute grâce, elle va donc participer directement au plan de salut de son divin Fils. Ce sont les pères de l'Église qui font marquer, c'est très beau, que le premier mot adressé par... Ça vous gêne? Le premier mot adressé par l'ange Gabriel à Très Sainte Vierge Marie en latin, c'est Ave. Ave Maria, je vous salue Marie. Et les pères font remarquer, c'est très beau, que le mot Ave, 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 c'est le mot Eva à l'envers. Eva, c'est le nom de la première femme qui a amené le péché sur le monde. Donc la Très Sainte Vierge Marie vient rattraper la prévarication d'Adam et Ève. Un deuxième, c'est pas les pères qui disent cela, je ne sais pas qui l'a dit le premier, mais j'ai trouvé ça assez beau. Certaines personnes ont fait remarquer que le mot Marie et le mot aimer sont formés des mêmes lettres. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelques jours. Et effectivement, Marie et aimer sont formés des mêmes lettres. Donc, si on remet dans un certain ordre les lettres du mot aimer, on obtient le mot Marie. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre bien justement que notre Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour nous sur la croix. Le jour du Vendredi Saint, et c'est la plus belle preuve d'amour. Mais pour pouvoir diffuser toutes ces grâces d'amour, de magnificence que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner, il va utiliser sa mère. La Sainte Vierge Marie est l'intermédiaire entre notre Seigneur Jésus-Christ et nous. C'est pour ça qu'on appelle le cou de l'Église. Le cou, de même que le cou fait la jonction entre la tête et le cœur, donc le cerveau et le cœur, de la même façon, notre Sainte Vierge Marie va faire l'union entre notre Seigneur Jésus-Christ et les pauvres fils d'Ève que nous sommes. Ce sont des choses très belles, on trouve tout ça en général dans les pères de l'Église. Les pères font aussi remarquer une autre chose très belle, que le nom de Jésus doit illuminer notre intelligence. Et que le nom de Marie doit illuminer notre cœur. Parce que le nom de Jésus, c'est qu'il y a une fête aussi du Saint-Nom de Jésus, qui est le dimanche entre la circoncision 1er janvier et l'épiphanie, la fête du Saint-Nom de Jésus. Le Saint-Nom de Jésus, justement, va illuminer, le nom de Jésus doit illuminer notre intelligence pour que nous sachions où est la vérité, par la foi, la vertu théologale de foi. Et le nom de Marie, au contraire, va illuminer notre cœur, pour que, par le cœur, notre Sainte Vierge Marie puisse nous indiquer comment atteindre la vérité. Elle sait très bien comment l'atteindre, puisque la vérité, c'est son Fils. Donc on voit très bien le rôle, là, encore une fois, la Très Sainte Vierge Marie, donc qui va illuminer le cœur pour que le cœur, par la vertu de charité, puisse atteindre la vérité donnée par la foi catholique. Autre chose importante, souvent les personnes me disent, mais Monsieur l'abbé, vous venez de dire qu'il fallait associer les mystères joyeux du rosaire à la vie purgative de la vie spirituelle. Vous savez qu'on n'atteint pas le bon Dieu en 5 minutes. Passer par des étapes. Bon. La première étape, c'est l'étape de purification, qu'on appelle la vie purgative. Purgare en latin, ça veut dire purifier. Ensuite, c'est une étape où on reçoit les lumières du bon Dieu une fois qu'on a été purifié. C'est la vie illuminative, pour recevoir les lumières du Saint-Esprit. Et enfin, s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par la vie mystique ou la vie unitive. Parfois, on fait remarquer, avec raison, on me dit, mais monsieur l'abbé, pourquoi vous associez la vie, les mystères joyeux, donc quelque chose de, comme son nom l'indique, joyeux, la joie, à la vie purgative, qui est une vie de purification, donc une vie de souffrance. Donc pourquoi associer les mystères joyeux à quelque chose qui est un peu négatif, dans le sens que la vie purgative est une vie de souffrance, une vie de purification qui est nécessaire avant d'atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est que la souffrance, elle est partout dans la vie de notre Seigneur. Il dit que notre Seigneur n'avait pas un oreiller pour y placer sa tête la nuit. Donc la croix, elle est partout. Et la première chose, on le voit très bien, même dans les mystères joyeux. Prenez les mystères joyeux. Le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. L'Annonciation, c'est très joyeux, effectivement. L'ange Gabriel qui vient annoncer à la Sainte Vierge Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Magnifique. Seulement, il y a aussi la souffrance qui est là. Parce que l'ange n'a pas averti Saint Joseph. Et ce sont les douleurs de Saint Joseph qui se rendent compte au retour de la visitation de son épouse à Sainte Élisabeth, qui se rend compte que son épouse est enceinte, qui n'a pas été mise au courant encore par la visite de l'ange, et qui se pose des tas de questions. Alors les pères discutent pour savoir si Saint Joseph s'est douté que la Très Sainte Vierge Marie avait été choisie pour devenir la mère du Sauveur. Ça s'est discuté entre les pères. Certains pères pensent que Saint Joseph a douté sur la virginité de la Sainte Vierge Marie, mais moi, je n'ai jamais accepté cette idée-là. En fait, c'est que Saint Joseph s'est tout de suite douté, puisque la prophétie était là, qu'une vierge enfanterait, que c'était le temps, en plus le temps de la rédemption qui était arrivée. Eh bien, Saint Joseph a dû se douter que son épouse était celle qui avait été choisie. Il s'est trouvé complètement indigne de rester avec elle. Et c'est là où l'ange est arrivé. Dieu merci, a prévenu Saint Joseph, n'ayez pas peur de prendre chez vous, sous votre toit, votre épouse Marie, parce que le fruit de ses entrailles est du Saint-Esprit. Après, il y a la visitation à Sainte Élisabeth, mais il faut voir qu'à cette visitation, cette procession du Saint-Sacrement, en quelque sorte, eh bien, sont associées aussi toutes les souffrances de ce voyage, à pied ou à petit âne, on ne sait pas, pour aller voir sa cousine. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, on dit que c'est très joyeux. C'est vrai que c'est très joyeux, mais enfin, mettre un enfant au monde dans une grotte à minuit, en plein hiver, alors qu'il n'y a ni eau courante, ni électricité, ni rien du tout, avec une paille qui n'est même pas une paille fraîche, donc Saint-Joseph a dû essayer de dégager un petit peu de paille moins souillée que le reste de la paille pour faire une espèce de lit pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais ça ne devait pas être très, très mirobolant, comme on dit. Ça, c'est des souffrances. Donc on voit très bien qu'à toutes les parties glorieuses et joyeuses de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours associé à la croix. Après la présentation au temple. C'est magnifique, la présentation au temple. Notre-Dame, qui est toute heureuse, vient présenter son enfant au temple de Jérusalem. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait Saint-Siméon qui était là. Et il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu entre ses mains le Fils de Dieu. Ben, ce qu'il vient annoncer, ce n'est pas très joyeux. Hein. Cet enfant sera un signe de contradiction pour beaucoup en Israël, pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Ensuite, il regarde notre Sainte Vierge Marie droit dans les yeux et lui dit « Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. » Je ne sais pas si vous trouvez quelque chose de joyeux là-dedans. Quant au dernier mystère joyeux, c'est toujours été pour moi un mystère. Comment on peut placer le recouvrement de notre Seigneur Jésus-Christ comme mystère joyeux? Notre-Dame qui perd son fils, Saint-Joseph et Notre-Dame qui perdent notre Seigneur Jésus-Christ, qui est perdu pendant 3 jours au milieu de la grande ville. On met ça dans un mystère joyeux. C'est pour bien faire comprendre que justement, il y a cette association constante entre la joie et la croix. La croix amène à la joie. Mais il y a des étapes. Donc, il y a cette nécessité de purification qui est bien expliquée justement par les mystères joyeux du rosaire. Purification nécessaire pour que nous puissions monter vers le ciel. Et sans cette purification, on ne peut tout simplement pas passer vers le ciel. On peut aussi retrouver dans l'évangile du Saint-Nom de Marie, donc l'évangile que je dirai à la fin de la messe, il fait remarquer que Notre-Dame a trouvé grâce devant Dieu. Donc on peut se poser aussi cette question, est-ce que moi j'ai trouvé grâce devant Dieu? On trouve grâce devant Dieu quand on est en état de grâce. Mais si on a le malheur de commettre un péché mortel, on n'est plus en état de grâce. Donc, n'étant plus en état de grâce, on ne peut pas trouver grâce devant Dieu quand on est en état de grâce, un état de péché mortel. Notre Seigneur Vierge Marie, dans l'évangile de la fête du Saint-Nom de Marie, il dit aussi que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien sûr. Nous aussi, on est fils de Dieu, attention. On n'est pas fils de Dieu par nature, on est fils de Dieu par adoption. Comment devient-on fils de Dieu? Par le baptême. Par le baptême. Mais quand je suis fils de Dieu par le baptême, très bien, on reste fils de Dieu, mais si je commets encore une fois un péché mortel, je deviens un drôle de fils de Dieu. Parce que justement, à ce moment-là, je place une coupure totale entre notre Seigneur Jésus-Christ et moi. Il dit aussi que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sera un règne sans fin. Notre Seigneur Jésus-Christ règne dans mon âme par l'état de grâce. Seulement, le problème, c'est que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme, ce n'est pas un règne sans fin. Combien de temps va durer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ? Il reste, notre Seigneur Jésus-Christ règne dans notre âme. Donc, nous sommes à l'état de grâce. Si encore une fois, j'ai le malheur de commettre un péché grave, à ce moment-là, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ est anéanti littéralement dans mon âme jusqu'au retour de la grâce sanctifiante par un acte de contrition parfaite ou une bonne confession. Rapidement, on peut également associer la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc, c'est qu'il y a deux fêtes de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il y en a une le vendredi de la Passion et il y en a une le 15 septembre. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir par le péché, mais aussi dans son Église. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à cause du péché, c'est la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs du vendredi de la Passion. Et là, c'est plus la fête de Notre-Dame du Sept Douleurs qui nous fait comprendre que l'Église elle-même va souffrir parce que l'Église est le corps mystique de Christ. Et on peut revoir dans ces magnifiques liturgies de la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut tout à fait voir justement que la force de notre Sainte Vierge Marie, elle n'est pas prostrée à moitié évanouie au pied de la croix, stabat mater, elle tient debout. Et debout de même que notre Seigneur Jésus-Christ porte sa croix debout, même s'il va tomber plusieurs fois à cause de nos péchés, elle se tient debout, stabat mater, extra crucem gloriosa. Donc, elle se tient juxta crucem, à côté de la croix, à côté de la croix, elle se tient debout. Et on voit, évidemment, par la méditation des mystères douloureux, je n'ai pas le temps de reprendre tous les mystères douloureux, mais par la méditation des mystères douloureux, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ a voulu de façon extraordinaire associer sa mère au sacrifice de sa croix. Parce qu'avant de mourir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Saint Jean, Fils, voici votre mère. Et à notre Sainte Vierge Marie, il va dire, Femme, voici votre fils. Donc à nous d'agir pour que nous soyons toujours en action dans notre façon de vivre, que nous soyons en action dans notre façon de vivre, que nous soyons des enfants de Marie, des enfants de notre Sainte Vierge Marie. Pour que Notre-Dame puisse nous considérer comme ses enfants, il faudrait encore qu'on la reconnaisse comme mère. Parfois, on se plaint, la Sainte Vierge Marie ne s'occupe pas assez de moi, mais est-ce que moi je m'occupe d'elle? Est-ce que moi-même, en tant qu'enfant de la Sainte Vierge Marie, puisque Notre-Dame est mère de l'Église, elle est mère de tous les membres de l'Église, attention, on est membre de l'Église par quoi? Par le baptême, eh bien, est-ce que je respecte la Sainte Vierge Marie comme ma mère? À chaque fois que je commets encore une fois un péché grave, pardon, non seulement je rejette notre Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ de mon âme, mais quand notre Seigneur Jésus-Christ s'en va d'une âme, il ne s'en va pas tout seul, hein. Il prend avec lui sa mère. Notre Seigneur Jésus-Marie ne va pas rester dans une âme qui est souillée par le péché, c'est impossible. Et par contre, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ revient après une bonne confession, il ne vient pas tout seul non plus. Il revient avec notre Sainte Vierge Marie. Là où est Jésus, là est la mère. Là où est la mère, là est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir que dans la liturgie de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, la Sainte Église a choisi comme épître l'épître du livre de Judith, qui est la même épître qui a été choisie aussi pour la fête de l'Assomption, au 15 août. Judith qui va obtenir le salut d'Israël en coupant la tête de Holoferne. Et il est dit de Judith, par elle, Dieu a anéanti tous nos ennemis. On peut méditer cette phrase si aujourd'hui on a bien besoin. Par la Sainte Vierge Marie, parce que Esther est le symbole de la Sainte Vierge Marie, Judith, pardon, est le symbole de la Sainte Vierge Marie, la reine Esther aussi, eh bien, ce sont des symboles de la Sainte Vierge Marie. Donc, la Sainte Vierge Marie est forte comme une armée rangée en bataille, et elle aussi a pour rôle d'anéantir tous nos ennemis. Mais c'est pas ça qui manque. C'est tous nos ennemis spirituels. Craignez, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui peuvent avoir pouvoir sur les âmes, pas ceux qui peuvent avoir pouvoir sur les corps. N'oublions pas qu'autour de nous, on le voit très bien aujourd'hui en France, avec cette persécution de plus en plus ouverte contre la famille, contre l'Église catholique, contre tout ce qui sent le catholicisme. Eh bien, on sent très bien qu'ils attaquent ils attaquent les corps. Ils essaient d'attaquer les âmes aussi. En fait, ils les attaquent aussi. Mais n'oublions pas que nos ennemis ne peuvent pas attaquer nos âmes, sauf si nous ouvrons la porte. Si évidemment, j'ouvre la porte de mon âme, parce que par exemple, je regarde la télévision en longueur de journée, ben, c'est évident qu'à ce moment la porte est grande ouverte, que le démon peut rentrer. Le démon républicain peut rentrer dans mon âme et absolument tout détruire. Enfin, la troisième fête, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Elle, cette fête, est associée à, je vous l'ai dit, au mystère glorieux du rosaire, à la vie unitive, à la vie mystique. Et qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ pour bien nous faire comprendre cela? Encore une fois, l'exaltation de la Sainte Croix, c'est des mystères glorieux, mais en voyant, on retrouve encore la croix, l'exaltation de la Sainte Croix. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est élevé de terre? Notre Seigneur Jésus-Christ est élevé de terre par sa mort sur la croix. Il est crucifié, mais il est crucifié de sa croix. Il domine la ville de Jérusalem, il domine le monde. Rappelez-vous, c'est dans le livre des Nombres que lorsque les Juifs se sont ré révoltés, une fois de plus, contre Moïse, à travers le désert, lorsqu'ils ont quitté la terre d'Égypte où ils étaient maintenus en esclavage par le Pharaon. Donc, Dieu va envoyer Moïse pour faire sortir tout le peuple hébreu de la terre de Pharaon et l'amener en terre promise. Et le problème, c'est que ça a duré 40 ans. Ça a duré 40 ans à cause des révoltes constantes des Juifs. Et ils se révoltaient contre Juifs et contre Moïse. Hein, qu'est-ce que c'est que ce travail? Vous nous avez mis dans un désert sans eau, il fait chaud, on n'a pas d'eau, on n'a rien du tout, on va tous mourir. Et évidemment, notre Seigneur défendait son prophète. Et à un moment, parce que les Juifs se révoltaient, au lieu de faire confiance à Moïse qui avait fait je ne sais pas combien de miracles déjà pour s'occuper du peuple hébreu, notre Seigneur a permis que sortent du sable des petits serpents qui vont piquer tous les Juifs qui se plaignaient et ils vont tous commencer à mourir comme des mouches. Ah, c'est bien sûr toujours la même histoire. Ils se précipitent, s'agenouillent devant Moïse. Oh, pardon, 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 vous pouvez vite, vite prier mon Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Et Moïse, à chaque fois, plein de bonté, prie notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que lui dit notre Seigneur Jésus-Christ? Mettez un poteau au centre du camp. Et sur ce poteau, attaché autour du poteau, un serpent d'airain, serpent de bronze. Et tous ceux qui regarderont avec foi ce serpent d'airain seront guéris. Et qu'est-ce que représente ce serpent d'airain? Qu'est-ce que vient faire cette histoire de serpent d'airain au milieu du désert? Le désert, c'est le monde. Le serpent d'airain représente la croix. De même que les Juifs qui regardaient les serpents d'airain étaient avec contrition, étaient guéris. De la même façon, ceux qui à Jérusalem et dans le monde entier, lèvent leurs yeux, parce qu'il faut lever les yeux pour voir la croix, parce que la croix est au-dessus de l'autel. S'ils lèvent les yeux vers la croix, à ce moment-là, ils vont pouvoir justement être sauvés par leur foi, la foi, la vertu de charité. Encore une fois, vous voyez, on retrouve toute la liturgie de la liturgie centrée sur la croix. Mystères joyeux sont centrés sur la croix. Les mystères douloureux sont centrés sur la croix, mais aussi les mystères glorieux. Là, que le guide de notre vie purgative, c'est la croix. Le guide de la vie illuminative, c'est la croix. Le guide de la vie unitive, mystique, c'est aussi la croix. Reprenez tous ces textes magnifiques. Je conseille, surtout pour ceux qui ne peuvent pas venir à la messe, de lire un peu tous ces textes de la fête du Saint-Nom de Marie, de Notre-Dame de cette douleur et de l'exaltation de la Sainte Croix. Elles sont magnifiques. Et pour l'exaltation de la Sainte Croix, il y a ce texte splendide de Saint Paul qui explique que notre Seigneur s'est humilié, s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout genou, dit-il, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, aux enfers. Afin que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Que tout genou fléchisse. Pas simplement le genou des catholiques. Également un genou des bandits qui nous dirigent. Tous ces genoux d'hommes qui sont en pleine révolte contre leur créateur, un jour ils seront obligés de plier devant l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Et roi. Il ne faut pas perdre courage. Dans l'évangile d'aujourd'hui, du 16e dimanche après la Pentecôte, il y a cette phrase: ne perdez pas courage à cause de mes tribulations pour vous. À cause de mes tribulations pour vous. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a eu des tribulations terribles pour nous. Et nous, il faut qu'on ait des tribulations. Il faut qu'on passe aussi par des tribulations pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas aller au ciel sans croix. C'est impossible. Absolument impossible. Il faut bien arriver à comprendre. Toute personne qui vit dans l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ va devoir porter la croix. C'est partie du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu nous sauver en nous offrant une marguerite tous les matins. Ce serait nettement plus facile pour nous. Mais s'il avait choisi ça comme solution, peut-être qu'on n'aurait pas très bien compris le poids de son amour. Donc pour être sûr que nous comprenions le poids de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, il nous offre non pas une marguerite, mais une croix. Une croix. Et c'est par cette croix qu'on va au ciel. Ah, monsieur l'abbé, moi je suis petit dernier. Eh bien, reprenez l'évangile d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps trop d'expliquer, mais il faut voir l'interprétation des pères de l'évangile d'aujourd'hui. Ce maître du festin qui invite des gens à son festin, et puis ils se disputent tous pour avoir la meilleure place. Qu'est-ce qu'on veut dire, notre Seigneur, jusqu'à ceux qui se sont par orgueil disputés pour avoir la meilleure place? Cédez votre place. Et à celui qui humblement s'est mis à la porte, à la dernière place, mon ami, montez plus haut. Montez plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tous les pères de l'Église expliquent de la même façon. C'est politiquement tout à fait incorrect aujourd'hui. Mais l'explication des pères de l'Église est toujours la même. C'est le peuple juif qui, dans son orgueil, n'a pas voulu reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur a dit, c'est à votre place. Et au contraire, les païens qui vont se faire convertir, surtout par l'apostolat des apôtres et de Saint Paul, Dieu va leur dire, montez plus haut. C'est la substitution du peuple catholique qui va venir prendre la place du peuple juif qui refuse notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas mon interprétation personnelle, c'est l'interprétation des pères de l'Église. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Tout ce que je vous dis, ce ne sont pas mes explications personnelles. Moi, je n'ai pas de connaissances personnelles sur le sujet. Monseigneur Lefebvre nous l'avait dit au séminaire. Et je ne veux pas d'idées personnelles au séminaire. Vous allez poser toute la bibliothèque pour vérifier ce que je vous enseigne. Loin de nous l'esprit de nouveauté. Loin de nous les idées personnelles, c'est Vatican II. Il faut faire des choses nouvelles, être dans la curiosité tout le temps, avoir des choses nouvelles, expliquer les choses de façon traditionnelle, non, de façon nouvelle. Non, on suit ce que l'Église catholique a toujours suivi. Et en matière d'explication de l'Écriture sainte, n'oublions pas que ceux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, ce sont les pères de l'Église. Donc on passe par eux. Et celle qui a la clé, qui ouvre la porte du paradis, c'est la Sainte Vierge, hein. Elle va aussi passer par elle. Il n'est pas question pour nous d'espérer monter au ciel sans passer par la Sainte Vierge Marie. Donc gardons-la bien dans notre cœur, prions bien notre chapelet tous les jours, surtout aujourd'hui, je sais si nous en avons besoin pour que nous soyons protégés et que tous ensemble nous puissions un jour nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.